voici à présent le dossier du jour dans cette seconde partie du journal. Affaire présence des vaches dans les provinces de Kwilu et Kwango. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé que ces vaches soient regroupées dans un premier temps au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Cette décision prise par le chef de l'État a été annoncée par le porte-parole du gouvernement le samedi 24 février dernier. Sur place à Bukangalonzo, les chefs de terre désapprouvent cette décision. Ils rappellent que lors de l'implantation du parc de Bukangalonzo, le même gouvernement avait pris des engagements qui n'ont jamais été honorés jusqu'à ce jour. Suivez tout cela avec Paul Matendo.
Les porte-parole du regroupement des chefs des terres et des notables du secteur de Bukangalonzo pensent que l'État devrait faire un pas en arrière. Il y a quelques années, au moment de l'implantation de la ferme de Bukangalonzo, le gouvernement avait promis de construire écoles, centres de santé et parcs d'attractions. Mais jusque-là, rien n'est fait, comme le souligne le représentant des chefs coutumiers.
Depuis que le parc est là, il y a beaucoup de nos mémorandums qui sont arrivés au gouvernement. Jusque-là, le gouvernement ne nous a jamais donné une réponse. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, aucune des réponses. Alors aujourd'hui, comment nous ne devons pas être inquiets de voir que maintenant il y a la présence de ces éleveurs et leurs bêtes.
Au terme d'une mission gouvernementale sur place, Paluku Kisaka Hiriri, ministre de pêche et élevage, a indiqué que ces bêtes appartiennent à des Congolais, principalement des éleveurs du Tanganyika et du Sud Kivu.
Les vaches appartiennent aux Congolais qui viennent de Kalemie pour Kinshasa parce qu'ils veulent écouler leurs produits.
Dans cette lutte, les chefs des terres ne sont pas seuls. Ils bénéficient de l'appui de certains acteurs politiques et organisations de la société civile du Kwango Kwilu. Cause rurale, par exemple, une ONG de défense des droits de l'homme basée au Kwango estime que les vaches dans le Kwilu Kwango ont détruit champs et habitations de la population. De son côté, Jonathan Ouata, député national, élu de Kinshasa et originaire du Kwango, appelle les gouvernements à ne pas jouer au malin, qu'ils respectent les droits des chefs des terres et qu'ils déplacent leurs bêtes, insiste-t-il.
Quand les membres du gouvernement arrivent à Bukangalonzo, ils demandent que de manière provisoire qu'on cantonne les vaches, le temps de trouver des acheteurs, puisque les vaches étaient destinées à la vente. Et il ne faut pas que le gouvernement joue au malin, il ne faut pas que cette solution qui était provisoire devienne définitive.
Pour d'autres, par contre, ces bêtes ne sont ni empoisonnées, ni transporteurs d'armes. Trifon Kinki et Mulumba, par exemple, qui a effectué une tournée dans les provinces du Kwilu et Kwango parle d'une déficience communicationnelle entre le gouvernement et les propriétaires terriens de ces deux provinces.
Il y a eu problème de communication en amont. Et là où il y a absence de communication, eh bien on assiste à tout. Qui vous disent que voilà, que ces bêtes transporteraient des soldats, que ces bêtes auraient été empoisonnées. Alors, une bête qui est empoisonnée, j'imagine qu'elle meurt dans l'heure. Donc, problème de communication.
Dossier à suivre.
Revue de presse.
La revue de presse quinoise dans une présentation de Jean-Désiré Kanyama.
À la vallée de l'Ancelé, la RDC rend hommage à la femme rurale, titre à la une l'avenir. À l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, le ministre du genre, enfants et familles a expliqué que la RDC veut investir dans la force et les énergies de ces femmes en faisant une priorité afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie et de travail, écrit l'avenir. Depuis l'Afrique du Sud, l'opposition consolide son unité autour de Katumbi, titre le potentiel à la une. Toutes les têtes couronnées de l'opposition ont fait le déplacement de l'Afrique du Sud pour sceller le lien qui mène à l'alternance démocratique à l'issue des scrutins de décembre 2018. À partir de ce vendredi, précise le potentiel. Malgré la démission de Michel Somoué, la primature restera un pandémonium, titre à la une scoop RDC.net. Pour ce média en ligne, les mots qui caractérisent la primature de Bruno Tshibala sont entre autres recherche du lucre, mépris de l'intérêt général, non-respect des engagements, non-respect des textes, mauvaise gouvernance. Un personnel de surcroît inexpert recruté parmi les oncles, les tantes, les enfants, les gendres et belles-sœurs, les amis et enfants d'amis, les chômeurs de l'UDPS acquis à sa cause et du rassemblement El Kassavubu, rappelle scoop RDC.net. Jeune Afrique scrute également cette information en rapport avec avec la démission de Michel Somouyé. Et c'est dans une interview accordée au Premier ministre en visite en France. Le magazine panafricain est cité par Les Potentiels qui écrit que Bruno Tshibala charge complètement son directeur de cabinet, Michel Somouyé, sur les derniers incidents de la primature. Mon directeur de cabinet a craqué et telle a été la petite goutte qui a fait déborder le vase, indique Le Potentiel. Ce qui fait écrire Forum des As à la une, est-ce l'épilogue du climat délétère qui prévoit la primature? Désavoué par Bruno Tshibala, Michel Somouyé démissionne. Écrit Forum des As qui cite le Premier ministre, partout dans le monde, lorsqu'un grave manquement est commis, il altère les rapports et invite à prendre des décisions qui s'imposent. Autre sujet traité par Scoop RDC.net, c'est le malaise social au FPI. Ce média renseigne Patrice Kitebi entre les feux des syndicats. Le SINAFET et l'intersyndicale du FPI, constitué de la CDT, de l'UNTC et de la CSC, ne cessent de marteler que Patrice Kitebi a violé sur toute la ligne les dispositions du Code du travail qui consacrent au grade des agents les droits acquis et inaliénables. Et que Scoop RDC.net, ce syndicat demande à Kitebi de revenir sur sa décision pour éviter d'amplifier le malaise au sein du FPI. Scoop RDC.net fait savoir que dans cette affaire, 17 dossiers sont déjà portés au tribunal de travail et 2 sont pendants à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe.
L'invité.
Maître Aimé Kilolo, avocat au barreau de Bruxelles et expert sur les questions de droit international, est l'invité de ce journal. Il revient sur la décision de la chambre d'appel de la CPI qui a rejeté les appels interjetés par Jean-Pierre Bemba et ses co-accusés dans l'affaire subornation de témoins. Il s'entretient avec Pelé Kipelamondo.
Maître Aimé Kilolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présentement à la haie où la chambre d'appel de la CPI a rejeté les appels interjetés à l'encontre de votre condamnation dans l'affaire d'atteinte à l'administration de la justice. En termes clairs, maître, qu'est-ce que cela veut dire?
Il faut dire d'abord tout simplement que la chambre d'appel vient de m'acquitter moi-même, Jean-Pierre Bemba, Jean-Jacques Mangenda, de 14 chefs d'accusation. Ce qui veut dire, en termes pratiques, que l'affaire est à nouveau renvoyée devant la chambre de première instance, qui va devoir à nouveau reprendre une nouvelle décision, non pas sur la culpabilité, mais sur le taux de la peine. Ça veut donc dire pour nous que c'est une victoire partielle. Le combat pour être totalement blanchi de cette affaire n'est pas encore terminé. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une victoire partielle sur le bureau du procureur qui avait demandé que chacun de nous soit immédiatement retourné au centre de détention pour 5 ans. Donc il y a eu en tout cas un désaveu aujourd'hui par la chambre d'appel du réquisitoire du procureur. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que cette affaire n'a fait que trop durer. Ça fait aujourd'hui 5 ans que cette affaire a commencé. C'est de millions de dollars qui ont été dépensés dans les cadres des poursuites des enquêtes dans ce dossier. Alors qu'en réalité, il aurait suffi que cette affaire soit traitée, renvoyée par la CPI devant le tribunal de première instance de la Haye en Hollande ou même devant le tribunal de première instance de Bruxelles, ça aurait été conclu en maximum 6 mois et ça n'aurait pas coûté autant, même pas le dixième de ce que la Cour pénale internationale a dépensé. C'est l'occasion pour moi de dire qu'il est aujourd'hui important pour le bureau du procureur, pour la Cour pénale internationale, de repenser la politique criminelle de la Cour et de se concentrer essentiellement sur la mission essentielle de la CPI qui est celle de poursuivre les crimes les plus graves qui affectent l'humanité entière, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide et crimes d'agression. Aujourd'hui, le 8 mars, nous avons à peu près des millions de femmes victimes de toutes sortes de violations des droits de l'homme dans l'est du pays par des activités des milices qui exploitent du coltan au bénéfice des firmes multinationales. Le bureau du procureur ne fait rien. Le Congo a besoin de paix, de sécurité, besoin de démocratie et besoin de justice. Mais pour ce faire, il faudrait aussi que la Cour pénale internationale se mette d'abord à l'écoute de 46 millions d'électeurs congolais qui se sont enrôlés et qui ont envoyé aujourd'hui un message à la communauté internationale pour dire « nous voulons aller aux élections ». Le processus démocratique au Congo doit se poursuivre sans entrave pour la tenue des élections d'ici la fin de l'année.
Vous parlez d'une victoire partielle. À vous entendre, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas très satisfait de cette décision.
Ce que je voudrais dire par rapport à la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale aujourd'hui, c'est qu'il ne m'appartient pas évidemment de la commenter. Je laisse cela à la doctrine de le faire au moment venu. Mais je voudrais souligner que je détiens entre mes mains des éléments qui indiquent que le bureau du procureur a systématiquement préparé ses témoins sur ce qu'ils devaient dire devant la barre dans les cadres de leur déposition, mais aussi qu'il aurait fait de nombreuses promesses et de l'argent remis à des témoins en échange de leur témoignage. J'ai déposé moi-même personnellement une plainte contre Madame Bensouda au niveau de la Cour pénale internationale. Il faut dire qu'aujourd'hui, la CPI n'a pas encore dévoilé les contenus de la plainte que moi j'ai déposée contre Madame Bensouda pour des faits de subornation de témoins, pour des faits de corruption.
Alors, Maître Kilolo, quelle est la suite des événements maintenant là?
Nous attendons bien entendu d'être appelés dans les prochains mois, j'imagine, que dans les 6 mois, on pourrait en tout cas être fixé par la décision qui sera rendue devant la chambre de première instance, qui ne pourra que être une décision plus confortable que celle qui avait été rendue auparavant, puisque nous sommes acquittés de 14 chefs d'accusation. Je me réjouis déjà d'être blanchi de toutes ces accusations fantaisistes que le bureau du procureur avait portées contre nous. Le procureur va sans doute essayer encore d'aller d'appel en appel, et ceci peut nous amener jusqu'en 2019 avant de clôturer définitivement cette nouvelle saga judiciaire.
Maître Aimé Kilolo, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Kanish Mukongo, bonjour.
Bonjour Jocelyne Moussaou, bonjour mes sportifs. Nous commençons par le football. Les démarrages des playoffs de la 23e édition du championnat national de football Vodacom Ligue 1 est confirmé pour le mardi 13 mars prochain. C'est ce qu'annonce la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, dans un communiqué publié hier jeudi, qui promet d'ailleurs de rendre public incessamment le calendrier, si possible, pour ce qui est du tour des cadrages. Le démarrage aura lieu le jeudi 15 mars. Comme vous le savez, une trêve de 10 jours a été accordée au club à partir de la fin de la phase de groupe dans les différentes zones. Revenons sur les équipes qualifiées dans ces zones. On a dans la zone ouest le dernier club Motema Pembe DCMP suivi de l'AS Vita Club, AC Rangers et l'AIC Dragon Bilima. Dans la zone centre-sud, le Tupisa Mazembe suivi de Saint-Éloi Lupopo, CS Don Bosco et GS Groupe Bazano. Dans la zone est, l'AIC Maniema Union, SC Montbleu et l'AIC Dauphinoir. Football dans nos provinces, la 18e journée de l'entente urbaine de football de Kananga a eu lieu hier jeudi au stade jeune de la commune de Katoka avec 3 rencontres. Les Stars a croisé au Capier Fokan, s'est mesuré avec club et Tupépé l'a joué contre Kamaï. Plus de détails sur le résultat avec Blaise Ndongala.
Les Stars et l'AS Okapi se sont séparés sur les scores de 0 but partout. Malgré la légère suprématie des étoiles, les Okapiens ont tenu jusqu'au bout du match. À la deuxième explication de la journée, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu entre Efokan et l'AS V-Club de Kananga au terme de 90 minutes. La partie s'est terminée sur la note d'un but partout. Les Dauphins Noirs ont marqué le premier par le joueur Muketa à la 4e minute de jeu avant que les académiciens reviennent au score à la 35e minute grâce à Simon Muzembe. Le troisième match a vu Tipepele dominer Kamaï sur le score de 2-0. Kasongo Batubenge a marqué à la 3e minute pour Tupépele avant de signer son doublé à la 72e minute. Ce vendredi, l'EFKANA a programmé 2 matchs jusqu'à croisera Olympic Club Kempe et la seconde rencontre mettra aux prises Aseka et Cheminot de Kananga. Blaise Ndongala Mayanda, Okapi Sport.
Entente urbaine de football de Lubumbashi, US News gère à dominer TP Rocher sur la marque de 3-0 au stade Frédéric Batsabaliba, match de la 28e journée. En première rencontre, FC Ujana, c'était incliné devant 16 étoiles jaunes sur la note de 0 but contre 2. Enfin, FC Saï a perdu devant FC Katanga Star, 0 but contre 2. Entente provinciale de football de Kinshasa et Pifkin, 2 matchs de la 26e 22e journée. Son prévu donc cet après-midi de la 22e journée prévue au stade Père Raphaël de la Quetzille à 13h. AS PGSK contre Real de Kinshasa à 13h30. GS Tchangou contre FC System. Au classement, GSK conserve le leadership avec 51 points en 22 matchs joués. Et puis préliminaire de la Coupe du Congo de football démarre le vendredi 9 mars. Donc aujourd'hui au Congo Central, au stade Mavungu dans la localité de Senda. Nous sommes là à la Ligue de football du Congo Central. On aura pour ce vendredi FC Ngenge contre Mazembe, les deux équipes de Kasangoulou. Un deuxième match, FC Even de Matadi recevra FC Albino de Kisantu. Enfin, la SVT Club de Matadi s'expliquera à la formation des BM Sport de Boma.
Merci Kanish Mukongo pour toutes ces nouvelles. Le cours de change avant terminé. Un dollar américain termine la semaine à 1583 francs congolais à l'achat et à 1647 francs congolais à la vente. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.